chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le cadre de mon émission Bienvenue chez le roi, je vous propose une saga romantique dont je suis l'auteur. Dans les Lumières de l'amour, je vous entraîne à la cour de Louis XV avec le prince russe Victor Casbec et la duchesse Marie-Angélique de la Doucelle. Marie-Angélique, duchesse de la Doucelle, reçoit ses amis pour un souper aux Ormeaux, dans son château. Le somptueux équipage du marquis du Boucher de Sourches et de son épouse Marie-Henriette, née Desmarets de Maillebois, venait d'arriver. Le domaine de Sourches n'était qu'à quelques lieues, mais ils avaient à cœur de paraître, et la soirée de la duchesse était une très belle occasion de le faire. Louis, troisième marquis de Sourches, comte de Montsoreau, venait de commencer la construction du château de Sourches avec un architecte prestigieux, Gabriel de l'Estrade, aidé d'un confrère manceau, Jean-François Pradel. De style néoclassique, la demeure promettait d'être magnifique. Le marquis aimait plus que tout les châteaux. Il avait 3 années durant transformé et redécoré en style rocaille son château d'Abondant avec l'architecte du roi Jean Mansart de Jouy. C'était d'ailleurs dans la région qu'il avait connu sa seconde épouse, Mademoiselle de Maillebois. La marquise portait une très jolie robe de faille gris clair, rehaussée de volants rose pâle, et sa coiffure bouclée relevée en chignon poudré accentuait son port de tête altier. Marie-Henriette découvrait la noblesse mancelle et monta les quelques marches pour rejoindre Marie-Angélique qui la fit entrer dans le grand salon et la présenta à ses amis. Louis était très prévenant pour son épouse et l'escortait en lui tenant le bras. Les autres invités étaient tous là. Quand le chevalier de Ruillé, en habit de satin gris perle et perruque poudrée, fit enfin son entrée. Bon dernier! « Ma très chère, pardonnez-moi, j'ai été retenue sur le pas de ma demeure par un fâcheux, » dit-il, en se penchant plus que nécessaire sur la jolie main de son hôtesse. Celle-ci sourit, indulgente. Le chevalier était coutumier du fait et se faisait toujours attendre, pensant sans doute ainsi se faire en même temps désirer. « Cher Bertrand, je ne vous en veux point, mais c'est mon cuisinier qui va m'en vouloir si nous faisons attendre son dîner. » Lui prenant le bras sans plus de façon, elle lança un « Venez mes amis, nous allons souper ». Tous la suivirent sans protocole aucun, continuant de deviser aimablement. La baronne Dupin fermait la marche avec la Bécouette, en l'abreuvant de récriminations, ce qui avait le don d'exaspérer le saint homme. « Je ne comprends vraiment pas ma fille. Comment peut-elle donner une soirée à peine revenue de Versailles? Ne regrette-t-elle pas son époux? Moi qui suis veuve aussi ?» Le vieux prêtre coupa court. « Ma chère baronne, n'oubliez pas que Louis avait le même âge que votre mari, justement, et que Marie-Angélique est une toute jeune femme. Pour les avoir vus pendant les 5 années qu'a duré leur union, je peux vous dire que le duc aimait beaucoup sa très jeune épouse et combien ils s'appréciaient mutuellement. » Elvire Dupin, aigrie et jalouse, pinça les lèvres, n'osant contredire le curé. Elle savait très bien que son mari avait ordonné cette union avec son ami Louis de la Doucelle. Sa fille avait tout d'abord fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, avant de passer ces quelques années choyées par un époux tendre et attentionné, heureux simplement de passer d'agréables moments avec cette jeune femme joyeuse et gaie, toujours de bonne humeur, qui avait enchanté ses derniers jours. Dotée d'un heureux caractère, elle avait fait montre d'affection à cet homme aimable, d'une grande culture, si prévenant et plein d'attention à son égard. Il l'avait installée fastueusement aux Ormeaux, avait comblé tous ses désirs, bijoux, équipage, réception, robes et chevaux, et n'avait désiré que de la voir heureuse près de lui, sans négliger pour autant l'éducation de cette jeune fille de 16 ans, en particulier en la formant aux affaires de son vaste domaine. Grâce à son intelligence et à sa perspicacité, elle était devenue très vite avisée et redoutable. Et pour finir, comme il avait ses entrées privilégiées à la cour de Versailles, il avait présenté la toute nouvelle duchesse à Louis XV, qui honorait le vieil homme de son amitié et lui savait gré de ses conseils, aussi judicieux que discrets. Lorsque tout le monde fut assis autour de la table magnifiquement parée, le quatuor commença à jouer doucement pour accompagner les conversations sans les gêner et le souper fut servi aussitôt. Les portes du salon jaune s'ouvrirent à double battant et Charles, le majordome, annonça le souper. Quatre valets portant les plats le suivaient. Il y avait là les deux fils du fermier, Placide et Fortuné, et les deux aides de cuisine, Caéphan et Toussaint. Très fiers de leur livret gancé d'argent, ils avançaient doucement. Les petits choux au fromage blanc et aux herbes furent très appréciés et l'on servit le gigot de 7 heures. Fondant, moelleux à souhait, qui se coupait à la fourchette. Marie-Angélique se partageait entre ses voisins. À sa droite, l'abbé Couette faisait honneur au mets et au vin. La duchesse avait choisi un bourgogne pelure d'oignon au goût délicat et un clos vougeot à la fois distingué et corsé. Il lui en faisait compliment et s'étonnait de la justesse de son choix. « Vous savez, monsieur l'abbé, j'étais à bonne école. Louis était passionné de vin et je suis comme lui. J'aime les découvrir, les goûter et les offrir à mes amis connaisseurs. » Autour de la table, on acquiesça. Chacun était fier de ses trouvailles et y alla de ses jugements et de ses commentaires. On évaluait les couleurs, œil de perdrix, feu et les goûts délicats, flatteurs, agréables ou suaves. Puis on parla de la cour. Marie-Angélique raconta tout. Ou presque, de son dernier séjour. Est-il vrai que la marquise de Pompadour règne sans partage sur le cœur du roi? Est-elle aussi belle qu'on le dit? Lance-t-elle la mode? Marie-Angélique l'avait effectivement rencontrée. Oui, tout cela est vrai, mais elle a aussi d'autres qualités. Très intelligente, elle a une grande influence sur le roi, s'occupe de politique, et le croirez-vous? Elle est appréciée des ministres. Elle organise aussi les fêtes et les soirées à Versailles. Elle s'intéresse aux arts, protège les artistes et par ses commandes nombreuses les fait connaître. Elle s'est même fait une amie de la reine elle-même, à qui elle prodigue ses attentions et fait montre du plus grand respect. Elle parla aussi des soirées auxquelles elle avait assisté, des bals au cours desquels elle avait dansé, sans parler de ses danseurs. Des feux d'artifice, enfin, qui l'avaient subjuguée. La vie à la cour est très brillante, passionnante, intéressante, et puis côtoyer le roi est un privilège. Quelques-uns de ceux qui étaient là avaient aussi leurs entrées à la cour, mais Marie-Angélique était proche du roi. Cela se savait et cela changeait tout. Assise à côté de l'abbé Couette, Elvire Dupin se renfrognait un peu plus à chaque anecdote, à chaque détail que donnait sa fille. Décidément, elle avait eu bien tort de venir ce soir. Elle s'en voulait d'être obligée d'assister à ce souper, beaucoup trop réussi à son goût. Le dessert arriva. La fameuse crème renversée à la vanille bourbon était exquise. Et les fruits et les mignardises sucrées et les chocolats. Guillaume de la Danière, qui toute la soirée avait fait le joli cœur, fleuretant sans vergogne avec ses voisines, Anne-Catherine Desporcé et Bérangère de la Renaudière, se précipita lorsque Marie-Angélique fit mine de se lever de table. Il lui offrit son bras pour aller boire le champagne dans le grand salon, suivi par toute la compagnie. Après que monsieur le curé se fut retiré, la baronne Dupin demanda sa voiture et s'en alla, sans un mot, après un vague baiser sur le front de sa fille, ma foi assez soulagée de la voir partir. L'atmosphère s'en trouva d'ailleurs fort allégée. Dans le grand salon, l'immense lustre de cristal scintillait de toutes ses lumières. On avait descendu la chaîne juste avant le souper pour allumer les 56 bougies qui illuminaient la pièce. Et dans chaque coin, les 10 bougies des grands candélabres brûlaient aussi. Le majordome fit asseoir les dames et servit le champagne, qui pétilla joyeusement dans les coupes évasées. La nuit était si douce que l'on ouvrit toutes les portes-fenêtres qui donnaient sur le parc. La pleine lune était brillante et éclairait la grande terrasse où quelques messieurs allèrent fumer. La musique reprit de plus belle. On joua des danses, une chaconne de Lully, une gavotte, un menuet. Bertrand de Ruillet et Guillaume de la Danière prirent en même temps la main de la jeune duchesse en faisant mine de la faire danser. Elle rit en penchant un peu la tête. « Enfin, messieurs, je préfère le rigodon, rapide et gai, parce qu'on le danse en couple peut-être, ou le tambourin de Rameau, qui est mon préféré. Mais j'aime aussi le passe-pied. Bref, duchesse, vous aimez danser ?» Marie-Angélique était ravie, heureuse de l'excellence de son dîner et du succès de sa soirée. Elle alla choquer sa coupe avec tous ses invités qui la complimentaient l'un après l'autre sur sa demeure, sur les mets, sur les vins, sur sa robe, sur sa coiffure, sur sa belle mine. Charles la suivait avec une bouteille de champagne et remplissait tous les verres au fur et à mesure. Elle se rendit compte au bout d'un moment que sa tête tournait un peu, mais elle continua néanmoins à converser de plus belle avec ses amis, à rire et à sourire à la fois, charmante et drôle. La nuit était bien avancée lorsque tout le monde partit, après l'avoir saluée, avec force remerciements, force baise-mains, force baisers et force démonstrations d'amitié. Elle resta sur la terrasse, regardant avec regret les attelages s'éloigner, et ne rentra qu'après quelques minutes en frissonnant. Louisette lui apporta un grand châle dont elle s'enveloppa. Elle se sentait soudain un peu triste, comme après chaque fête. Elle aurait voulu que tout cela dure encore et encore. Elle remercia les musiciens qui s'en allaient avec leurs instruments, félicita chaleureusement Jacques Renoux pour l'orchestre qu'il avait formé, et laissa les domestiques débarrasser et ranger les salons. La fête était finie. Elle alla dormir, très fatiguée tout à coup. Il faisait déjà grand jour et la lumière filtrait à travers les doubles rideaux. Elle avait dormi longtemps. Marie-Angélique repensa avec un grand plaisir à sa soirée de la veille. Tout avait été comme elle l'avait souhaité. Elle en soupira d'aise. Il faudrait refaire cela. Louisette frappa à la porte et entra avec le grand plateau du petit-déjeuner. Le cuisinier avait préparé, comme chaque matin, des feuilletés chauds et croustillants et un grand bol de chocolat à la crème qu'elle adorait. Mais elle aperçut à côté le rouleau d'une lettre et se leva d'un bond. « Cette lettre vient d'arriver, madame. Le maître de poste est passé ce matin, il l'a déposée au château. » Elle ajouta, mystérieuse et ménageant son effet avant de se retirer, « Elle vient de loin. » Marie-Angélique vit le cachet, l'ouvrit précipitamment. Elle venait de Russie. Sa vue se brouilla et ses mains tremblèrent lorsqu'elle commença à lire la missive. Victor avait une belle écriture, très droite, avec des traits très appuyés, et son français était parfait. Cela n'était guère étonnant, car en ce siècle des Lumières, toutes les cours d'Europe parlaient et écrivaient le français. « Madame, mon palais est immense, mais hélas, j'y suis seule. Je vous écris et je ne sais combien de temps cette lettre mettra à vous parvenir, à vous retrouver là-bas. » À 1000 lieues d'ici. J'erre comme une âme en peine. Je vous en veux, madame, d'être si loin de moi, heureuse, dans votre château à la campagne, dans l'or doré de l'automne, alors que je suis ici à Saint-Pétersbourg au début de l'hiver et que je m'attends à ce que les glaces prennent les eaux de la Neva devant mes fenêtres. Je suis au royaume des neiges et vous êtes au pays de la douceur de vivre. Comment vais-je pouvoir vivre sans vous? Quand nous reverrons-nous? M'avez-vous déjà oublié? Vous me manquez, madame, infiniment, le savez-vous? Répondrez-vous à toutes ces questions? Je voudrais être encore auprès de vous à Versailles, bercée de musique et de feux d'artifice dans la nuit étoilée. Danser avec vous, voir votre sourire et votre regard, entendre votre voix me parler de choses tendre, vous tenir dans mes bras et vous dire tout mon amour en baisant vos lèvres. Vous demandez encore et encore de m'épouser et que cette fois vous acceptiez d'être ma femme. Bien sûr, je ne suis qu'un prince des steppes et vous une duchesse du royaume de France, mais rien ne m'empêchera de songer à tout ce que je vous dirai lorsque nous nous retrouverons. Enfin, votre beauté m'enchante, votre gaieté et votre rire me ravissent. Vous êtes celle que j'espérais. Vous êtes la femme de mes rêves les plus fous. Mon cœur est plein de vous, mes pensées ne sont qu'à vous et ma vie est à vous. Madame, je vous aime. Victor Casbecq. La jeune femme, les yeux pleins de larmes, laissa échapper la lettre qui tomba sur le sol, dans les rayons du soleil. Marie-Angélique ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle regarda près d'elle la lettre de Victor qui gisait sur les pavés de terre cuite. Elle bougea la tête et vit qu'elle était dans sa chambre. Un malaise l'avait prise, sans doute dû à l'émotion qui l'avait saisie en lisant les mots de son prince russe, et elle s'était tout simplement laissée glisser par terre. Elle tenta de se relever, mais elle eut un nouvel éblouissement et y renonça. Elle était là, sur le sol, seulement vêtue de sa chemise de nuit de dentelle, les pieds nus, sa longue chevelure blonde étalée autour de son visage comme un soleil. Elle rit tout à coup, s'imaginant ressembler à l'Ophélie de M. Shakespeare dans sa rivière. Cette phrase lui revenait à la mémoire. L'amour vrai, sa sincérité, se distingue par les actes bien mieux que les paroles. Et les mots alors, est-ce que cela comptait de la même sorte? Ou encore, quand il est sans remède, un chagrin est fini, et qui n'a plus d'espoir n'aura plus de regrets. Certes, mais elle n'avait pas de chagrin, seulement un excès de bonheur qui l'étouffait tout à coup. Quant aux regrets, elle n'en avait jamais eu, ayant toujours préféré avoir des remords plutôt que des regrets. Louisette, étonnée de ne pas entendre de bruit dans la chambre de sa maîtresse, revint rapidement sur ses pas et traversa la longue galerie avec Alésia, qui l'aidait le matin pour les chambres, et sa sœur Katina. Elle poussa un cri en voyant la jeune femme étalée de tout son long. « Madame, m'entendez-vous? Que vous arrive-t-il? Êtes-vous malade? Vous êtes-vous fait mal en tombant? Souffrez-vous? Vous êtes toute pâle. Non, je vais bien. » « Aidez-moi seulement à me relever toutes deux. » Elles s'empressèrent et allongèrent Marie-Angélique sur la couverture de son lit d'effet. La camériste, inquiète, lui dit d'un ton péremptoire. « J'envoie Placide chercher le docteur à louer. »« C'est inutile, voyons, je me sens beaucoup mieux maintenant. Ne dérangez pas, monsieur Aubert. »« Ne protestez pas, madame, je le ferai. » Effectivement, à peine une heure ou deux plus tard, le médecin, toutes affaires cessantes, se précipitait au château et montait chez Marie-Angélique. « Allons, allons, que vous arrive-t-il, ma chère? Vous paraissiez en meilleure forme à votre belle soirée. »« Eh bien, cher docteur, je compte sur vous pour me le dire. » Il l'examina sérieusement, en silence, et lui prenant la main, il s'assit familièrement sur le bord du lit et lui fit un grand sourire. « Vous permettez, n'est-ce pas? Il faut que nous causions. »« Est-ce grave, docteur? Rassurez-vous, point du tout, vous n'avez rien de grave, bien au contraire. » « Je dois vous dire que je suis assez perplexe, mais néanmoins formelle. Vous êtes enceinte. » Marie-Angélique blêmit et faillit repartir en pâmoison. Le médecin lui tapota les joues affectueusement. « Voyons, voyons, ma chère, ce n'est pas un drame. Mais l'amitié que je vous porte et celle que j'avais pour le duc, votre époux, m'autorise à vous poser une seule question. L'aimez-vous ? » ?»« Oui, je l'aime. Et il m'aime aussi. » « Le père est à Versailles ? » demanda-t-il, le front soucieux. « Non, je vous rassure, mon cher Jean, le roi n'est pas le père. C'est un prince russe reparti à Saint-Pétersbourg. Avez-vous une idée de la date de la conception de cet enfant ? » ?»« Oh, très précisément, je ne peux avoir aucun doute à ce sujet. C'était le jour de la Saint-Louis. Comment vais-je me tirer de ce mauvais pas ?» « Eh bien, mais le plus simplement du monde, vous allez continuer à sortir et à vous amuser pendant 2 ou 3 mois, peut-être 4, après quoi vous resterez discrètement aux ormeaux avec votre domesticité qui vous est dévouée, je le sais, et je serai là pour mettre au monde ce bébé, comme j'ai mis au monde dans ma longue carrière de médecin de campagne plus de 1000 bébés. » Il ajouta plein d'humour pour faire sourire sa jeune patiente. « Et encore, je ne vous donne pas le chiffre des vaches que j'ai vêlées après avoir accouché les fermières, lorsque ces braves bêtes étaient en difficulté. » Cette fois, elle éclata de rire et reprit des couleurs. « C'est une situation étrange, n'est-ce pas ? En effet, peut-être aurez-vous le bonheur de mettre au monde un petit Louis. Je sais que cela aurait comblé de joie le duc qui n'a pas eu ce bonheur d'avoir un héritier. » C'était d'ailleurs le regret de sa vie, il me l'avait confié. Mais comment puis-je faire cela ? Oh, vous savez, en tant que vieille anticléricale, mais néanmoins amie de notre cher curé, qui tient les registres des naissances et des morts, je sais, par expérience, qu'il y a toujours des arrangements avec le ciel. Voyez-vous ce que je veux dire ? Marie-Angélique voyait tout à fait, et irait voir l'abbé Couette le plus tôt possible, pour lui demander son aide. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite de ma saga Les Lumières de l'amour sur les ondes de Radio Grand Ciel. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon email personnel france.guimard.roche@gmail.com.